le premier, on dit que Moïse a grandi, le commun, c'est la statue, hein, en taille, si vous voulez. Le deuxième, que Moïse a grandi en grandeur, Gdoula. Quelle est la différence? Le premier indique, c'est un ridouche pour lui-même, que l'enfant était viable, qu'il a grandi, que vous avez dans quelle circonstance très difficile cette identité est mise à l'abri. Un hébreu sauvé par la fille du pharaon, vous vous rappelez de ça, et qui vit quand même alors qu'il y a une décision absolue que les enfants des hébreux ne doivent pas exister. Non seulement elle l'a mis à l'abri, mais elle a pu réussir à le faire grandir. Et un ridouche pour lui-même, ben, il va la galer. Ça fait des comas, en taille, en stature, en âge, si vous voulez. Le deuxième, en grandeur. Et qu'est-ce que ça veut dire grandir en grandeur? Qu'est-ce que c'est que la grandeur? Alors les Midrash nous disent, qu'est-ce que c'est Gdoula? C'est la Tzet et l'Echad. Qu'est-ce que c'est la grandeur? C'est de sortir vers ses frères. Vous suivez? Et vous vous rappelez la relation avec l'identité de Joseph. Comment la grandeur, entre guillemets, de Joseph commence? Et Tachai Anochi Mevakesh. Quand, dans cette phrase, il dit, c'est mes frères que je cherche. Vous vous rappelez de ça? Il y a toutes les façons plus chaque fois l'expression, mais je tenais à vous signaler cela. Bah, il a manché, Moïse a grandi. Et c'est ça la grandeur. Être capable de la mida de Gdoula. Cette mida de Gdoula, c'est un autre nom de la mida Tachesed. Yad Agdola. C'est la mida de Chesed. Il est capable de refaire à son propre niveau le cheminement des valeurs qui le mèneront à l'identité Israël dévoilé, capable de recevoir la prophétie. Ça va prendre du temps, mais c'est le premier moment. Et à ce moment-là, s'impose à lui la nécessité de faire ce diagnostic. Donc nous avons là, par ce Midrash, une définition importante de ce que c'est que la grandeur vraiment. Lorsque, en quoi dire de quelqu'un qu'il est grand, c'est une louange. Il n'y a plus de réponse dans la tradition, mais ici il y a une réponse très importante. La grandeur se dévoile dans le fait de l'aller vers ses frères. Ça va jusque-là? Bon. C'est important pour le profil de l'identité juive, parce qu'il y a toujours la tentation du quant à soi, de se mettre en dehors de la communauté, d'être, comme on dit aujourd'hui, marginal. C'est une tentation juive permanente. Vous savez cela. En particulier dans ma petite expérience que j'ai des autres sociétés juives que celles que je connais, de la culture française, des francophones, eh bien, je crois que c'est une tentation très forte chez les francophones. Et d'où ça vient? À l'échelle générale de l'identité juive, ça vient, je crois, de la force d'inertie. C'est d'une des composantes de la force d'inertie au niveau psychologique. En tant que juifs, nous avons été marginaux. Et par conséquent, une pseudo-équation a fini par s'installer, être juif, c'est être marginal. Mais en tant que juifs, nous avons été marginaux des goyim. Mais revenu chez nous, être marginaux des juifs, alors ça c'est la tentation. Enfin, l'échec. Est-ce que c'est clair? Et ça travaille beaucoup. C'est dû probablement au type de culture que nous avons reçu de la culture française. Ça travaille beaucoup chez les juifs francophones. Je remarquais ça en Israël. C'est clair? Ça vous rappelle des choses, en fait, des difficultés. Et au point que certains d'entre eux n'hésitent pas à faire l'éloge de la marginalité, que c'est ça, la judaïté. Je ne vais pas seulement citer Némi en parlant de ça, mais top. Alors voilà, non, la grandeur, c'est tout le contraire. La grandeur, c'est Vayetse et Elecha. Vous reconnaissez ça à notre lecture permanente depuis Caïn et Abel. Okay? Être capable de l'équation de fraternité. Vayar Bessilotam, et il vit, Vayar, c'est dans le sens de considérer, de comprendre, de juger, de considérer. Vayar Bessilotam, il les connaissait, ces fardeaux. Sivotam, on vous traduit habituellement des fardeaux. Quelqu'un a une traduction française sous les yeux? Hein? Parlez plus fort. Oui, c'est plus exact. Quoique le terme de fardeau n'est pas faux, imaginez tous ces cohortes, enfin je veux dire tous ces fils d'esclaves hébreux avec les briques sur les fardeaux. Okay? Et donc le Midrash dit, Vayar Bessilotam, aux uns et aux autres, nous suivons la même ligne de lecture. Il a considéré la charge des uns et des autres. Et jusque-là, c'est équivalent. Je veux dire, le jugement de disqualification d'Égypte, on va l'avoir a posteriori, mais jusque-là, pour Moïse, fils adoptif du pharaon d'un côté, chef des Hébreux, potentiel des Hébreux de Lot, il y a les Sivlot Mitzrayim des Mitzrayim, il y a les Sivlot Mitzrayim des Hébreux. Vous comprenez ce que je veux dire? Les Égyptiens ont leur charge dans le contrat de travail qu'il y a entre Israël et Israël. Et les Hébreux ont la leur. Nous allons voir, je ne voudrais pas allonger le suspense, nous allons voir que ce n'est pas du tout un niveau de profil de civilisation que Moïse choisit ici. C'est à travers un critère d'ordre moral, une fois de plus, et essentiellement et fondamentalement. C'est-à-dire que Moïse collabore avec la tâche des Égyptiens comme il est solidaire de la tâche des Hébreux. L'une et l'autre sont légitimes dans la mesure où tout se passe authentiquement au niveau des valeurs de la moralité. Il y a une civilisation qui est en cours d'épanouissement et un peuple prédestiné, mettez ça entre 13 guillemets, un peuple destiné, si vous voulez, à en être le peuple de sanctification. Et les deux ont leur tâche dans ce contrat de travail. C'est un critère d'ordre moral qui fera que Moïse préfère le profil culturel hébreu au profil culturel égyptien, alors qu'il est capable des deux. Et c'est bien clair jusque-là ? On peut dire un peu banalement le folklore hébreu, le folklore égyptien, mais c'est plus profond que ça, à condition de prendre le mot de folklore dans son sens étymologique, la manière d'être peuple. Et le Midrash que je voulais vous citer disait que tout le monde avait des fardeaux. Les fardeaux des Hébreux, c'était le joug du travail qu'ils avaient à faire, et le symbole en était le joug. Et puis les Égyptiens avaient comme un signe de fonction des jougs en bijoux. Et en particulier, le pharaon avait autour du cou, comme symbole de sa fonction, un joug. Vous savez que c'est un joug, un joug de ce. Les deux avaient leur ciblette. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est nous qui savons par sensibilité hébraïque que c'est terrible d'être le travailleur du camp de concentration plutôt que l'empereur sur son trône. Oui. Mais jusque-là, les deux dossiers pouvaient être plaidés par Moïse. C'est quand le facteur moral intervient que Moïse va intervenir. Ça va jusque-là? C'est bien clair, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, jusque-là, le Midrash nous dit que c'était Moïse qui était le chef des camps de travail des Hébreux. Ça s'appelle le capot en chef dans les temps de nazis. Imaginez Himmler, hein, dans ce récit. Vous avez compris? Alors, jusqu'à un certain stade, il y a un contrat de travail de collaboration. Inévitablement, la position du travailleur n'est pas la même que la position du directeur du travail, si vous voulez. Mais le directeur du travail, c'est la civilisation du temps. Le travailleur, c'est Israël de ce temps. C'est quand le critère moral a été là, le décalage moral arrivant, Moïse va choisir où. Je vais vous donner une image de la manière dont les juifs contemporains, en tout cas de ma génération, de la génération précédente, du temps du nazisme, ont vécu cette situation et vous allez la retrouver chez nous. Énormément de juifs assimilés. C'est-à-dire qu'ils fermaient les yeux avec beaucoup de complaisance sur la relation d'antisémitisme du paysage gauche dans lequel ils vivaient par rapport à ses propres juifs. Vous savez, là, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, une espèce de relation de complaisance. En France, ça ne peut pas arriver, mais c'est la complaisance. C'était, puis ça arrive quand même, appelez-vous Saint-Louis. Et alors, Saint-Louis n'était pas occupé par Charlemagne. Tant qu'il s'agit de choisir dans l'avenir, soit hébreu, soit égyptien, dans ce cas, quelle que soit la diaspora où on se trouve, eh bien, on hésite. À un certain niveau, c'est équivalent, si j'ose dire. Okay. Alors, le juif, finalement, est capable de s'assimiler totalement au profil de culture égyptien, mais c'est quand il commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que son frère juif est persécuté, critère moral, qu'il intervient, qu'il décroche et qu'il se remet en question. Alors, c'est arrivé à énormément de juifs contemporains d'avoir retrouvé leur source à cause de la persécution des autres juifs. Parfois de la leur, mais surtout des autres choses. C'est bien clair? Ce qui les a de nouveau rattachés à la source d'identité, c'est le fait qu'ils ont fini par découvrir ce que Moïse découvre là, qu'il n'y a plus équivalence, parce que la morale est d'un côté et pas de l'autre. Parce que la valeur morale est d'un côté et pas de l'autre.
C'est clair jusque là?
Bon, comme je vous disais tout à l'heure, ça donne une sorte de légitimation par la Torah elle-même de ces processus de réidentification que dans certains milieux on pourrait vous définir comme profanes, extérieurs, inauthentiques. Eh bien la Torah nous dévoile qu'ils sont tout à fait authentiques. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est arrivé à Moïse lui-même. Encore une fois, tant qu'il n'était pas arrivé à ce niveau de grandeur qui lui permet de porter le diagnostic au niveau des valeurs morales, eh bien il est simultanément, c'est difficile à vivre, mais il l'est, encore une fois, le fils adoptif du pharaon sur le trône, et d'autre part, dans sa vie privée de ghetto intérieur, le fils du chef de la tribu de Lévi. Hein. Et ça pouvait être comme ça, reporté, différé, jusqu'à la fin des temps, si à un certain moment, il n'arrive le diagnostic que la moralité est d'un côté, pas de l'autre. C'est pourquoi le Midrash, si vous le retrouvez, va mettre en évidence, à propos du mot « vaillard », et il dit, qu'est-ce qu'il a vu? Bien, il a vu essentiellement ce qu'il va nous dire dans le verset suivant, il a vu que l'Égyptien frappait l'Hébreu. Que l'Égyptien fasse travailler l'Hébreu, c'est le contrat de travail, mais qu'il le frappe, pourquoi? Alors c'est là que le diagnostic va être porté. C'est clair jusque-là? Alors je reprends l'étude de notre verset, le verset 11. Et il arriva dans ces jours-là, Vaïval Moshe, Moïse grandit en grandeur, Vaïetzelechav, il sortit vers ses frères, suspense, lesquels? Vaïar Betilotam, il a considéré leur travail à l'un et à l'autre. Et pour le moment, il n'y a pas encore de choix. Mais Vaïar, Ishnitzri Makeishvili, Mechav. Et il vit un homme égyptien frappant un homme hébreu de ses frères. Alors ce Mechav de ses frères de la fin du verset, c'est là où il découvre qui sont ses frères. C'est bien clair? Parce que s'il les avait connus comme tels au début du verset, Vayetzelecham, surtout vers ses frères, il était absolument inutile que la Torah revienne sur l'expression Mecham, si a priori c'était les Hébreux ses frères. On n'en veut pas nous dire d'un homme hébreu de ses frères. C'est à la fin du verset qu'il sait que c'est ses frères. Enfin, il le sait, qu'il a choisi. Ça y est, c'est clair? Alors, je crois que ce que j'ai ajouté à la lecture n'est au fond pas du tout un ajout. Depuis le début du récit de l'histoire selon la Torah, on voit qu'à chaque étape, c'est le critère moral qui nous donne l'explication de la catégorie de sélection d'identité, de la catégorie de diagnostic. C'est bien clair? Voilà donc un verset extrêmement important, c'est-à-dire dans ce verset, Moïse a fait basculer l'histoire de l'humanité. C'est là que ça s'est passé. Et le diagnostic du critère de la moralité passe par les Hébreux, quelles que soient les apparences, et pas par l'Égypte, quelles que soient les apparences. Mais c'est pas au niveau valeur de civilisation qu'il y a eu le choix. Ceci explique qu'effectivement, le juif de diaspora est incapable de choisir au niveau valeur de civilisation. Il sera incapable de choisir entre son folklore privé juif et son folklore officiel de la cité où il est inséré. Est-ce que c'est clair? Parfois, ça mène à une assimilation incontrôlée. Je ne sais pas comment vous dire. Bon, vous avez compris. Vous n'avez pas compris? Je ne sais pas. Je veux dire, je ne crois pas que ce type de juif de diaspora que je vous cite là, avant le choix que non, décidément, je suis hébreu, quel que soit le voyage, eh bien, finalement, ne choisira pas entre une fable de La Fontaine et un ouvrage de Rabbi Akiva. Est-ce que c'est clair? Oui, je vais comprendre ça. Bon. Quel? Ah, Midrash, voilà, la question est, est-ce que le fait que l'Égyptien est immoral, par exemple le nazi, ça rend moral le Midrash radical à ce sujet. Oui, radical à ce sujet. Il y a le Rodef et le Nirdaf. Le Rodef et Nirdaf. Le Rodef, c'est celui qui persécute. Le Nirdaf, c'est le persécuté. A priori, Dieu choisit le Nirdaf et pas le Rodef. Radical. Oui. Vous avez énormément de nombreux chemins. Chaque fois, il faudrait ajouter, quelles que soient les apparences. Mais là, nous sommes dans la première scène. On ne connaît pas la suite encore. Voilà la première scène. Le diagnostic a été fait par Moïse, mais c'est un diagnostic de l'ordre de la moralité. Alors, vous pouvez enrichir tout cela par la lecture, même à livre ouvert, des mythes du Midrash Rabbah ou des autres Midrashim qui parlent de ce choix. Qu'est-ce que Moïse a vu qui a fait qu'il a choisi l'hébreu et pas l'égyptien? Alors, j'espère avoir éclairé la la traduction chrétienne du verset par rapport à notre problème d'identité. Première scène, voilà donc Moïse qui a pris une décision très grave et qui va avoir à en tirer les conséquences par la suite. Il va y avoir un deuxième épisode, une deuxième scène le lendemain, comme nous allons voir dans le verset suivant. Première scène, imaginez Moïse qui avait entre ses mains l'avenir de la civilisation égyptienne, qui a diagnostiqué que ses frères, non, c'est les Hébreux. C'est clair jusque-là ? Bon. Deuxième scène, verset 12. Vaïfen Korako. Ah non, la scène n'est pas finie, excusez-moi. On est toujours dans la première scène. Alors il voit un homme égyptien frappant un homme hébreu de ses frères. C'est la traduction directe. Ish, c'est un homme, il n'y a pas d'article. Mais peut-être qu'il faut lire à travers l'expression hébraïque du verset elle-même, à travers le pshat, il faut lire à notre niveau. Il voit que l'homme égyptien frappe l'homme hébreu. C'est-à-dire que la manière d'être égyptienne est du côté du frappant, alors que la manière d'être hébreu est du côté du frappé. Mais ça se rattache un peu à cette question. Vaïfen Korako, il se tourna ça et là. Ça et là, c'est mal traduit. Korako, par là et par là. Ça veut dire dans toutes les directions. Je veux dire d'abord la lecture au niveau du récit sans signification, sans sa signification, du récit lui-même, de la scène brute. Il se tourne ça et là, Vayar qui est Nish, et il vit qu'il n'y avait personne. Et Vayar est à Mitzri, et il frappe à l'Égyptien, Vaïtmen et Ubahol, et il l'en fout dans le sac. Habituellement, enfin nous sommes habitués à lire ce verset à ce niveau-là. Il voulait être sûr que personne ne l'a vu avant de frapper l'Égyptien. Mais le Midrash va me poser une question innocente. Est-ce qu'on se rappelle qui est ce Moïse, tout puissant, de qui il a peur de frapper un Égyptien et même de l'enfuir dans l'eau? Pourquoi il se tourne là ou là pour voir s'il y avait personne à le surveiller? Vous suivez? Il a peur de personne. Donc ça veut dire autre chose, le Midrash. C'est clair, je peux avancer dans la magie. Et le Midrash nous dit. D'ailleurs, Rachid le cite à sa manière, vous le verrez par vous-même. Il a scruté tout l'avenir de l'identité de l'Égypte et il a vu qu'il n'y avait plus personne qui deviendrait tzaddique. Alors, il a mis fin à l'histoire de l'Égypte. Voyez qui est Nish. Il a scruté les lignées de l'Égypte et il a vu qu'il n'y avait plus de Nish. S'il vous plaît ? Alors, Rachid, je crois, cite un Midrash, je n'ai pas encore vérifié tout à l'heure, mais on va le lire. Rachid cite un Midrash qui ajoute ceci comme ça. Vayar qui est Nish Atid Leitgayer. Qu'il n'y avait plus personne de la descendance de cette manière d'être en Égypte destinée à se convertir au Bédine de Jérusalem. Alors il décroche, fini. On n'a plus rien à faire là-bas. Vous avez compris, une des dimensions des fonctions de l'exil étant de ramener ces étincelles dispersées, il a vu qu'il n'y en avait plus. Alors il a mis point final, on retourne chez nous, on n'a plus rien à faire. C'est clair, ça va ? Comment sur quoi le Midrash s'appuie, c'est effectivement que la première lecture est invraisemblable par rapport à la toute-puissance de Moïse. Et pourtant, nous allons voir que cette dimension de crainte que le pharaon sache ce qui s'est passé existe dans le récit. Mais c'est tout à fait autre chose. Pas qu'il a tué un Égyptien, c'est qu'il a choisi pour Israël. C'est tout à fait autre chose. Est-ce que c'est bien clair ? C'est à ce niveau que l'inquiétude de Moïse redevient compréhensible. Ça, si le pharaon le sait, il interviendra. Mais que Moïse, tout puissant dans les camps de concentration qu'il dirigeait, tue un espèce d'adjudant en chef barbare, ça, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas terrifiant. C'est clair jusque-là? Je vous une parenthèse. Parce que le Midrash que je vous cite est un complément dans un autre Midrash, que quand même, il avait fait une petite erreur de diagnostic. Et que précisément, de cet Égyptien individuel qui représente toute l'Égypte, devait sortir un guerre. Et puis que finalement, Moïse ne l'a pas vu, il était caché dans un coin, il ne l'a pas vu dans sa vision, si j'ose dire. Et que, et je continue cette analyse que vous suivez, je verrai dans un autre passage de la Torah, qu'au moment de la sortie, avec la sortie d'Égypte, avec tous les Hébreux, il y a un Égyptien qui sort avec eux, et qui est marié avec une Israélite, dit le texte, Aïcha Israélite, et qui devient le blasphémateur. Et parce que son argument est que il n'a pas de place dans aucune des tribus d'Israël, il ne descend pas d'un hébreu, et par conséquent il va faire il va être une épine dans l'histoire d'Israël. Alors le Midrash dit, ben, cet Égyptien là qui est sorti avec les autres, ben, il est sorti de cet homme-là, mais Moïse ne l'avait pas vu. Donc ça, Vous voyez que chaque fois, à chaque étape, nous avons une problématique très dense de remise en question. Pour aller plus loin, il y a une allusion. Et ici, c'est que pourquoi la Torah a choisi cette expression, il l'enfouit dans le sable. Est-ce qu'un tel détail d'information est important pour nous? Alors vous avez différents midrashim qui utilisent l'unité de lecture d'Israël comparée au sable, et Cholayam, hein. Mais en particulier, il y en a un qui redonne au nom de Chol son autre sens de profane opposé à Kadosh. Hein. Ça veut dire que tout ce qui avait de capacité de sainteté en Égypte est déjà intégré, l'Égypte en est vidée et l'Égypte est restée profane. Tout le Kodesh s'en va avec Israël et le Chol reste. C'est-à-dire l'Égyptien est enterré dans le Chol, alors que l'Hébreu est Kodesh. C'est compris ? Pas plus clair. Oui, dans nos Ashrabas. Et alors, je reprends l'analyse. Et voilà, à la fin du verset 12, alors le choix de Moïse est définitif. On peut aller beaucoup plus loin. Moïse n'a pas frappé un Égyptien, il a tué l'Égypte de par son choix, en faisant basculer l'histoire à travers son choix par l'histoire d'Israël. Et donc, cet épisode est extrêmement important pour l'identification de notre propre histoire et identité. Et bien qu'il n'y ait pas de tempête de sable, on va bientôt être étouffé si vous n'arrivez pas à ouvrir la porte là-bas pour faire un peu de l'air. Alors, abordons le verset 13. Ça, c'est la deuxième scène qui commence. Vaï, Bayom Hacheni. Et il arrivera le deuxième jour. Il sortit le deuxième jour. Vaï, mais chez les Anachim, et voilà que deux personnes, deux personnages, c'est pas seulement des hommes, Stam, Ish, vous avez déjà appris, ça a le sens de. Personnalité, vraiment, personne importante. Deux hommes hébreux, Nitzim, se querellant, Vayomer la Rachar, la Matakerech. Et il dit au méchant, pourquoi frappes-tu ton prochain? Alors vous analysez la scène. Vous connaissez déjà la suite, mais on ne la connaît pas encore, on ne l'a pas encore lue. Okay. Alors imaginez, et ça nous est donné de façon typée, de façon presque stéréotypée. C'est comment dire? En imaginant la première scène, les raisons de la déception de Moïse quant à l'état de la civilisation égyptienne. Il a mis le temps, mais il a fini par voir clair. Il y a une immoralité dans la politique de l'Égypte par rapport à ses juifs, enfin à ses hébreux. Alors imaginez ce Moïse déconnecté de son adoptivité égyptienne, disponible pour redevenir hébreu, qui va se heurter un spectacle de deuxième déception quant aux Hébreux. Ce qu'ils reprochaient aux Égyptiens, ils le trouvent chez les Hébreux. Okay? Alors, mais ce Moïse est déjà d'une identité bien précise. C'est un Moïse qui a déjà décidé de renoncer à l'égyptianité, si j'ose dire, parce qu'il est déçu radicalement de ce que la civilisation égyptienne peut représenter comme véhicule possible des valeurs d'Israël. C'était son rêve joséphique. Jusque-là, le rêve joséphique. À partir de la scène précédente, du jour précédent, Moïse est heureux, il est décroché de l'Égypte. Et voilà qu'il se tourne vers sa communauté. Alors imaginez Moïse abandonnant l'illusion israélite, entrant dans la communauté juive et assistant à une réunion du consistoire. C'est exactement cette thèse. Alors il retrouve dans l'identité des Hébreux la raison pour laquelle il avait disqualifié l'identité de l'Égypte. Alors, il y a un récit très dense et très, très concis, mais il va, je ne sais pas comment dire, de Caribe en Silla, si on peut dire ça comme ça. Imaginez la stupéfaction. Vous voyez, le juif assimilé, qui décide de se désassimiler, candidement, naïvement, croit qu'il va rentrer chez les anges, en venant chez les juifs. Et qu'est-ce qu'il trouve? Ce qui se passe à la Knesset, ça revient en bas. Et alors, déçu de l'Égypte, disponible pour la communauté d'Israël, il ressent en pleine figure l'état des choses. C'est la deuxième scène. Ça va jusque-là? Alors je lis le texte. Vayomer la Rachar, et il dit au méchant, Lamatakerecha, pourquoi frapperais-tu sur ton prochain? Le Midrash intervient, beaucoup de Midrashim, mais j'en cite un, On l'appelle Réhab du Rachar, c'est que les deux étaient Réchaïm. On l'appelle le Réhab du Rachar. Le Midrash dit, on apprend que les deux étaient Réchaïm. Finalement, on va les identifier. Il s'agit de Datan et Abiram, qui vont jouer un rôle très néfaste d'anti-Moïse dans l'histoire d'Israël. Mais quoi qu'il en soit, je crois que ça suffit de situer la scène elle-même. Après la déception quant à l'identité égyptienne, la réflexion quant à l'identité hébraïque, c'est aussi, nous retrouvons, si on peut suivre la même analyse, c'est aussi ce qui arrive à beaucoup de juifs qui ont eu l'expérience précédente que je vous avais décrite avec Moïse, première scène, et qui ensuite ne rentrent pas dans la communauté parce que dès qu'ils y ont pénétré, et ils ont diagnostiqué la même chose ou pire que ce qu'ils voulaient quitter chez les Goïs. Vous avez compris cela? Alors, le fait que ce soit Moïse qui ait fait le premier cette expérience-là montre qu'il y a de l'espoir pour tout le monde. Enfin, c'est important que la Torah nous donne cette description d'expérience. Et un de ces deux Rechaïm dit, Vayomer, il dit, Misamcha Leish, Sarve Shofet Alenu, qui t'a placé comme prince et juge sur nous. Et l'anarchie, la tendance à l'anarchie de l'identité juive, allez, Orgeniata Omer, est-ce que c'est de tuer que tu entreprends, que tu parles, Kacher Arate et Amitri, comme tu as tué l'Égyptien. Vaïra Moshe, et Moïse eut peur, Vayomar, vous rappelez l'inquiétude dont je vous ai parlé? Il eut peur, Vayomar, et il dit, Achen Nodar Davar. Ainsi, la chose est connue. Quoi? Quelle chose? Encore une fois, qu'il a étudié, qu'il a tué un Égyptien, Maïkpat, c'est pas ça qui l'inquiète. Qu'il a tué l'Égypte, ça si le pharaon entend parler de cela, c'est fini. C'est-à-dire ainsi la chose est connue au niveau du Pshat, que Moïse a choisi pour Israël contre l'Égypte. Ça c'est connu. Alors lisons Rashi sur ce Achen Noda Adamar, et nous allons avoir un Rashi très énergique, et il faut lire ça jusqu'au bout, et ensuite on aura l'explication. Alors, vous avez Rashi sur Achen Noda Adabar, sur la fin du verset. Ça y est, je peux commencer à le lire, okay. Rashi commence par dire Kemashmao. Il faut d'abord le lire dans le sens simple. Le mot, dans le sens qu'il signifie. Achen, ainsi, Noda Adabar, la chose est connue. Quoi? Pas seulement qu'il a tué un Égyptien, mais qu'il a choisi pour l'hébreu. Pour les Hébreux contre les Égyptiens. Vous comprenez le problème? Et de ça, Moïse peut être inquiet. Qu'est-ce que va faire le pharaon? Que dira l'ONU? Alors, en tout cas, je vais ajouter à ce que vous avez cité par rapport au diagnostic de Moïse sur l'expression Vayar qui est le Kish. Et il a vu qu'il n'y avait plus personne. Et par conséquent, la fonction de l'exil s'achève, et raison de plus pour diagnostiquer qu'il faut décrocher. On pourrait supposer, et dans beaucoup de milieux très pieux du judaïsme de la diaspora, il y a eu cette tendance, on sait très bien qu'on est chez les barbares, on sait très bien qu'on risque d'être persécuté sans arrêt, mais il y a quelque chose à faire, alors on supporte quand même. C'est clair? On ne sait pas, vaguement, on dit ça, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à faire. Ici, c'est une des réponses. Sauver les étincelles de sainteté perdues là-bas. Hein? Vous avez certainement rencontré cette atmosphère, en tout cas. Mais alors là, Moïse donne le diagnostic. Non seulement c'est insupportable, mais il n'y a plus rien à faire. Et ça va ensemble, d'ailleurs. Quand c'est insupportable, c'est le signe qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que Dieu n'envoie jamais une épreuve qu'on ne peut pas supporter. C'est une grande règle. Hein? J'oublie comment ça se dit dans la chaume du Midrash, mais je crois que l'idée est claire. Hein? Par conséquent, si l'épreuve devient insupportable, c'est qu'il ne faut plus y rester. Vous avez compris le... Je vais vous raconter une des manières dont la Gemara l'enseigne, à propos de Rabbi Yochanan, parmi d'autres d'ailleurs, c'est un exemple, c'est Rabbi Yochanan qui situe le plus notre problème, parce que Rabbi Yochanan est tombé malade, nous dit la Gemara, ses collègues sont allés le visiter, et ils lui ont demandé Chavivin Alechai Souri, tiennent bien ses souffrances, ça va t'apporter du mérite. Hein? Sous-entendu. Et il a répondu, Lohen Velosrara, ni elle ni l'Arsalaire. C'est-à-dire que, à partir du moment où une souffrance est insupportable, on a le droit de demander qu'elle s'arrête, de faire qu'elle s'arrête. Si on sait pas comment faire soi-même, on s'adresse à des spécialistes. 17 rue de Fortuny. Pour revenir à notre question, au moment de la mort de Moïse, plus tard, bien sûr, le Midrash nous raconte, dans le Midrash Rabbah sur Vezet Ovracha, le Midrash nous raconte que quand l'ange de la mort est venu chercher la Neshama de Moshe Rabbeinu, la Neshama de Moshe Rabbeinu n'a pas voulu être prise par l'ange de la mort, et il y a toute une argumentation qui commence, et puis l'ange de la mort tient à faire son travail, est un serviteur honnête, et alors la Neshama de Moïse argumente et démontre que il n'a jamais fait aucune faute et par conséquent il ne peut pas mourir. Il y a un grand principe, et mita belochet, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de mort sans faute. Alors argument sur argument sur argument, en fin de compte Dieu intervient pour dire à Moïse, il faut que l'ange de la mort fasse son travail. Vous savez, il y a des raisons pour lesquelles Moïse doit quitter la scène de l'histoire. Mais l'histoire ne peut pas fonctionner si Moïse, à un certain moment, ne quitte pas l'histoire. C'est un problème pour lui-même. Et alors, la Neshama de Moïse refuse. Et finalement, elle demande, je paraphrase un peu, que Dieu lui révèle pourquoi, pour quelle faute il va mourir. Alors Dieu lui dit, tu as tué l'Égyptien. Alors j'ai continué le Midrash. Et Moïse répond, comment? Moi j'en ai tué un, mais toi tu les as tués tous. Et au passage de la mer, est-ce une faute d'avoir tué l'Égyptien? Alors Dieu répond, et c'est très important, je vous redirai avec le Midrash précédent, et moi je peux les ressusciter, toi tu peux pas. Et c'est Neymar, animemit umchayef. C'est clair. Alors quand Moïse a entendu cet enseignement, il a dit, ah, elle est par là. Pardon ? Ça pourrait aller jusque-là, c'est un peu loin, mais ça pourrait aller jusque-là, il faudrait ajouter qu'ils font ressusciter l'autre. Et ça, c'est autre chose. Bon. Alors, je reviens donc à notre texte. Première lecture de Rashi, Achen Noda Adavar, ainsi la chose est connue, et on comprend la panique de Moïse. Lorsqu'il découvre que non seulement il se heurte à l'hostilité de la société des Hébreux, mais que quoi, c'est pour ça qu'il a. Vous comprenez imaginez le moment de son expérience à ce moment-là. Je continue. Dans Rashi, Nodarli Adavar, chez Haïti, et maintenant Rashi dit, Midrasho, mais le Midrash, ainsi la chose est connue, il faut le comprendre comme ça. Nodarli Adavar, chez Haïti, Tamé Alav. Maintenant, je comprends ce qui m'étonnait toujours. Et Rashi ici va nous citer un Midrash qui fait une sorte de diagnostic de ce thème d'identité au niveau d'une récapitulation de toute l'histoire d'Israël dans le livre. Machatou Israël, quelle faute ont fait Israël, Nicole Shivi Numot, plus que toutes les 70 nations, Liot Nirdil, Baavodat Paref, pour être tellement persécutés de travaux forcés. Et c'était ce qui m'étonnait toujours. Je ne savais pas pourquoi les Hébreux souffraient tellement. Et vous comprenez que ici le Midrash élargit l'expression qu'emploie Moïse à toute l'histoire d'Israël. Hein. Le Midrash répond à ses propres questions en faisant parler Moïse. Aval, mais Roéani, Shehem, Elohim, Lekar. Mais je vois qu'il le mérite. C'est un Midrash terrible, c'est un Rashi énergique. Hein. Tout ça parce que si Moïse, ce même Moïse dit. Ah ben je ne savais pas pourquoi les Hébreux étaient persécutés, maintenant je le sais. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment pas entre eux. C'est clair. Parce qu'ils s'aiment pas entre eux. Parce que par définition, les choses devraient être beaucoup plus simples que ça. Le goy, c'est le rachat, la preuve c'est qu'il est, et le juif c'est le tzadik. Et voilà que je trouve chez les juifs Bershaïm. Alors je comprends pourquoi ils sont persécutés. C'est clair, c'est terrible dans la bouche de Moïse, une indication pareille. On laisse ça en suspens, il va y avoir une réponse dans Rashi aussi. Okay. Mais j'essaye de vous faire, suivre par étapes l'expérience que Moïse vit dans cette situation de ces deux scènes successives. Alors déjà, ce profil au niveau de l'identité du juif dans l'exil, quelque chose de plus que ce que nous avons déjà dit tout à l'heure. Le juif qui était en train de s'assimiler, arrêté par l'immoralité de la persécution des juifs, rejoint sa communauté. Mais il est, repoussé par ce qu'il trouve. Et alors il reste en dehors. Il n'est plus ni égyptien, il est déçu de l'Égypte, mais il n'est pas hébreu. Il ne rentre pas dans la communauté ni en Israël parce qu'il dit c'est pire. Donc, vous avez compris. Alors il va être disponible pour n'importe quelle aventure que je vais vous décrire, et vous allez retrouver les aventures de l'humanisme des juifs assimilés contemporains. Et le récit va nous éclairer avec ce que j'appellerai l'aventure de Moïse à Midian. Vous voyez, on pouvait s'étonner de cela. Comment Moïse abandonne ses frères? Et alors, il y a des défauts. Il les abandonne quand même, mais on sait plus que ça. Il est vraiment déçu. Et au fond, son diagnostic, c'est que cet Israël-là, c'est plus Israël. Vous entendez ça dans tous les discours juifs anti-israéliens, okay, ou anti-communautaires d'ailleurs. Vous voyez à peu près le profil de juif qui se dessine là, qui est capable de faire la critique de la civilisation de son pays, Goy, mais qui ne rentrera pas dans la communauté, ni en Israël. Je sais pas, il y avait un livre récent de Bernard-Henri Lévy sur la démocratie française, vous vous rappelez ? Une espèce de critique acerbe, et ça c'est le Moïse de la première scène. Bon, et Bernard-Henri Lévy est encore dans la deuxième scène. Il est rentré dans la communauté, ni en Israël. Alors je sais pas si vous savez que c'est pas un juif, mais enfin ça c'est anecdotique. Ah oui, donc il s'appelle Lévy. Son père est juif, mais pas sa mère. Alors en tout cas, et ses enfants ne le sont pas, puisque sa femme non plus. Je connais la famille du père, c'était des juifs algériens de Benissa, je ne sais pas si à côté, pas loin de Tlemcen, sur la plage. Là où on pêchait les anchois. Bon, en tout cas, pour revenir à notre problème. Papa Falcon, ça vous dit quelque chose, c'était de là-bas. Alors, on revient à notre texte. Là, Moïse est disponible. Et on va voir que, d'après le récit, il va directement quelque part, comme s'il savait que c'est là-bas qu'il faut aller. On lit la suite du verset, « Vaïbrach Moshe mitene Pharaon » et Moïse s'enfuit de devant le Pharaon, « Vaïeshev Beeretz Midian » et il s'installe dans le pays de Midian, « Vaïeshev Alaber » il s'assoit auprès du puits. Il s'assoit auprès du puits, c'est encore énigmatique, on va voir tout à l'heure, mais d'abord, le raccourci du récit. Il est déçu des Égyptiens, il se tourne vers les Hébreux. Déçu des Hébreux, il s'enfuit, à cause de la crainte qu'il a du Pharaon, et on le sait déjà pourquoi, et le texte tranquillement nous dit, comme si ça va de soi, il s'enfuit où? Eh bien, à Midian. Pourquoi à Midian? C'est clair? Alors, nous allons faire une analyse, et après, sur le Vaïeshev, Beeretz Midian, et après on verra pour le Vaïeshev Alpiaver, c'est Alpiaver, Alaber. Eh bien, qui était Midian? Alors, nous allons rencontrer dans la suite du récit un personnage qui s'appelle Jethro. Et qui va devenir d'ailleurs le beau-père de Moïse. C'est la scène immédiatement suivante, où auprès du puits, de nouveau Moïse, comme Jacob, son ancêtre, nous dira Rachid, on verra qu'est-ce que ça veut dire, va rencontrer la bergère et va la marier, et donc, j'avance déjà dans l'analyse, tenter de fonder une nation avec elle, qui serait censée, dans cette première étape du diagnostic de Moïse, remplacer la société des Hébreux disqualifiée. Alors, qui est ce Jethro? C'est en partant de cela, il se cherche un ersatz, si j'ose dire. Il n'a plus l'Égypte, il n'a pas Israël, mais il est disponible pour être le Moïse de qui? De Midian. C'est clair ce que je dis là? Vous voyez comment ça situe l'expérience contemporaine de temps et temps de juifs contemporains. Alors, le Midrash nous dit que Jethro était le grand prêtre de la peuplade de Midian. Rappelons-nous que Midian descend d'Abraham, un fils d'Abraham. Et un Midrash qui va nous parler de Jethro à la manière dont le Midrash avait déjà parlé d'Abraham. Qu'Abraham avait rejeté l'idolâtrie et était disponible pour la révélation de vérité. Eh bien, le Midrash, à propos de Jethro, va nous dire la même chose de Jethro. Et à travers Jethro, de l'identité Midian. Le Midrash va se poser la question, comment est-il possible que Midian, grand prêtre, etc., que Jethro, grand prêtre de Midian, ne dispose pas de berger pour s'occuper de ses propres troupeaux, mais il faut que ce soit ses filles qui soient les bergères de ses troupeaux. Et vous savez déjà, dans la situation du temps, c'est dangereux d'être la bergère. On préférait être le berger. Alors, le Midrash explique que oui, Jethro était le grand prêtre de sa peuplade, le grand prêtre, de l'idolâtrie de cette phrase, mais que finalement il avait répudié cette idolâtrie, c'est pourquoi on l'avait mis en quarantaine, on l'avait mis en kherem. Et alors, il était obligé de s'occuper de lui-même, c'était ses propres filles donc qui étaient les bergères. Mais maintenant je me coupe lui-même, c'est que Jétro a compris que son idolâtrie était une idolâtrie, il les a essayées toutes, et il les a rejetées toutes. Ça veut dire qu'il est absolument disponible pour la révélation de vérité, comme Abraham l'était dans sa propre vocation au début de son histoire. C'est bien clair ? C'est-à-dire qu'avec Jétro, on a de nouveau un petit abramique de la première époque d'Abraham. Alors, on comprend ce que le texte nous enseigne par rapport au choix de Moïse. Moïse cherche une société disponible pour recevoir son message. C'est pas l'Égypte, c'est pas Israël en Égypte, c'est donc. Eh bien, il a entendu dire, il savait, un homme de culture de cette époque le sait, qu'il y avait déjà, dans une société, le phénomène Abraham avait surgi, de Jétro. Alors il va chez lui. Et avec la fille de Jétro, il a le projet de fonder un peuple qui remplacerait Israël. Ça va jusque-là ? Bon. C'est pourquoi je vous avertis qu'on allait être dépaysé. Parce que c'est un récit caché habituellement. Vous comprenez ? C'est juste en train de vous lire là, dévoile des choses qu'on a oubliées. Je pense que c'est clair. Et cette tentation de se chercher ce que j'ai appelé, moi, avec un terme négatif, un ersatz d'Israël. Je crois qu'on pourrait intituler cette étude le complexe de Midian. Le complexe de Midian, c'est cela. Un juif déçu de son Égypte, mais déçu de sa communauté, et qui se cherche une société disponible pour en être le prophète. Et vous avez des quantités de prophètes de ce genre dans la vie juive contemporaine. Tu seras mon Midian, je serai ton Moïse. C'est toutes les modes par lesquelles passent successivement les intellectuels juifs qui ont eu cette histoire et qui se cherchent une société à ça pour en être le Moïse. Ça va jusque-là, c'est pas la fin du sentiment, mais c'est vraiment des modes. Au temps de ma jeunesse, c'était. Non, ça c'était encore plus tardif, mais par exemple, une des modes les plus tardives, c'était le maoïsme. On est déçu de l'Occident, Israël, il ne faut même pas en parler. Ça se passe chez Mao. Hein. Avant, c'était à Cuba. Oui, de mon temps, c'était Cuba. Et après, ça a été ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est les Palestiniens. On devient le Moïse des Palestiniens. Vous avez suivi ces espèces de mode successifs. Bon. Alors, heureusement qu'on va avoir du travail avec les Éthiopiens, ça nous fera penser à autre chose. on revient donc à notre analyse. La concision du récit montre bien que ce mouvement de fuite de l'Égypte et d'arrivée chez Midian est délibéré. C'est un thème d'identité qui s'organise. Et regardez bien comment, avec beaucoup d'humour, Rachid le met en évidence sur la fin du verset Vayeshev à la Ber, et il s'assit à côté du puits. C'est moi qui traduis à côté, littéralement c'est sur le puits. Regardez bien. Vayeshev à la Ber dans Rachid. Lamad me Yaakov, chez Nishgavaglo Zilugo à la Ber. Il a appris de Jacob, qui a rencontré son âme sœur, Batzoug, près du puits. C'est-à-dire, on voit très bien ce qu'il veut faire, comme Jacob, fonder un Israël. Et puis, après tout, on peut se dire, dans la problématique de Moïse, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que Moïse, lui, est descendant de Jacob. Donc c'est toujours Israël. Mais cet Israël de l'histoire, l'Israël de l'histoire jusque-là, est disqualifié. Et moi, je vais fonder un autre Israël avec Midian. Ça va jusque-là ? L'Israël qui a été fondé par Jacob avec Aram, eh bien, celui-là, il a échoué. Moi, je fonde notre Israël avec Midian. Jusque-là, nous avons connu le phénomène de l'assimilation qui était motivé par la volonté de se détacher de l'identité d'Israël et des valeurs d'Israël. C'est ce phénomène de l'assimilation classique. De l'autre côté, apparaît un autre phénomène. Le refus d'Israël au nom des valeurs d'Israël. Et bien, c'est pas du tout. C'était l'expérience de Moïse aussi. Il y a une nouvelle forme d'assimilation qui apparaît. Je ne sais pas si vous lisez la littérature contemporaine sur le judaïsme en français. C'est une espèce de floraison de plus littéraire. Eh bien, c'est toujours la même chose. On refuse Israël au nom des valeurs d'Israël.
la véritable judaïsme étant celui de la diaspora, c'est-à-dire la plus tradition de la société, au nom de la diaspora.